accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, dans les livres d'histoire, ils resteront peut-être comme la génération Covid, comme il y a eu les baby boomers ou les millennials avant eux. Pour ces jeunes, la crise sanitaire du coronavirus a beaucoup obscurci les perspectives d'avenir. Travail, études, tout est bouleversé. Mais avant de parler de ces jeunes-là, nous allons en Pologne, où les 18-29 ans détiennent peut-être la clé de l'élection présidentielle de dimanche. À 3 jours du second tour, le président sortant, l'ultra-conservateur Andrzej Duda, et le maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski, sont au coude à coude dans les sondages. Dans ce contexte, le choix des jeunes électeurs, plus de 2 millions de personnes au total, pourrait être déterminant. Au premier tour, ils ont massivement voté pour des candidats éliminés. Alors, que vont-ils faire dimanche? Qui vont-ils soutenir? Vont-ils au contraire s'abstenir? Thomas Giraudeau a posé la question à certains d'entre eux.
Au premier tour, un quart des jeunes ont plébiscité Szymon Hołownia, le candidat indépendant, arrivé troisième avec près de 14% des voix. Célèbre présentateur télé, catholique modéré, Hołownia veut sortir la Pologne de sa division binaire. Entre d'un côté Andrzej Duda et le PiS, Droit et Justice au pouvoir, et de l'autre la plateforme civique et son candidat, Rafał Trzaskowski. Alors pour Dominika, une étudiante qui a voté Hołownia au premier tour, impossible de choisir.
Je vais voter blanc et je ne veux pas donner ma voix à Andrzej Duda ni à Rafał Trzaskowski, parce que depuis 15 ans, on vit une sorte de guerre sans fin entre les deux principaux partis politiques, le PiS et l'APO. Et quand l'APO dirigeait le pays, il y avait beaucoup de problèmes et il y en a encore plus en ce moment. C'est pour cela que je voulais voter pour quelqu'un de nouveau.
Un homme hors des partis qui pourrait être le président de tous les Polonais. Trzaskowski promet d'incarner cette réconciliation, mais Katarzyna, 23 ans, étudiante en design, n'y croit pas. Elle a voté pour Szymon Hołownia au premier tour.
Trzaskowski n'est pas le meilleur choix. J'aime un certain nombre de ses idées, mais selon moi, il ne comprend pas les gens simples. Je vais voter pour lui, pas parce que c'est mon candidat, mais plutôt parce que c'est le moins pire. Duda a violé la Constitution, donc lui et son parti ne sont pas une bonne option pour moi.
Sans conviction, juste pour sanctionner l'actuel président. A priori, c'est ce que fera aussi Mikołaj, un intérimaire de 25 ans. Lui a voté pour Krzysztof Bosak, le candidat d'extrême droite, arrivé quatrième avec près de 7% des voix.
J'hésite entre m'abstenir et aller aux urnes, mais je pense que je vais voter pour le moins pire, donc pour Trzaskowski. Je n'aime pas que le parti au pouvoir contrôle toutes les institutions et tant d'influence sur la vie des gens. Duda et Trzaskowski ne sont pas les mêmes, mais leur politique, celle de leur parti, est trop sociale. Peut-être que Trzaskowski est un peu plus libéral sur l'économie.
Les jeunes ont apporté à eux seuls plus de la moitié des voix de Krzysztof Bosak au premier tour. Ultralibéraux, ils rejettent les allocations sociales versées par le PiS et Duda, mais en même temps, ils s'inquiètent des positions de Trzaskowski en faveur des LGBT. Alors leur candidat n'a pas donné de consigne de vote.
Ils ne méritent pas notre soutien. Trzaskowski n'a jamais été un grand défenseur de la liberté d'entreprendre. Il ne s'est jamais battu pour baisser les taxes. Duda, lui, est de gauche sur l'économie. Il soutient les politiques qui augmentent la redistribution sociale, les dépenses publiques. Et sur les questions culturelles, par exemple, sur la protection du droit à la vie des embryons, il n'a fait que parler, promettre, il n'a rien fait.
Pourtant, selon de récents sondages, la majorité des électeurs de Krzysztof Bosak soutiendront Andrzej Duda au second tour.
En Turquie, de plus en plus de jeunes rêvent de partir ailleurs. Situation économique qui se dégrade sans cesse depuis 2 ans. Répression des voix dissidentes. Un sondage récent révèle qu'une large majorité des Turcs de 15 à 25 ans souhaiteraient s'expatrier, y compris chez les partisans du président Recep Tayyip Erdogan. À Istanbul, c'est un reportage d'Anne Andlauer.
C'est un sondage qui risque de ne pas plaire au président turc. Un sondage qui montre que la jeunesse est de moins en moins satisfaite de sa vie en Turquie. Réalisé en mai par la Fondation pour la démocratie sociale, SODEV, dans 12 provinces auprès de 600 participants de 15 à 25 ans, cette enquête révèle que plus de 6 jeunes sur 10 voudraient s'installer à l'étranger s'ils en avaient la possibilité. Pourquoi ces rêves d'ailleurs ? Il y a d'abord des motivations économiques. Non seulement le chômage des jeunes est élevé et augmente, autour de 25% actuellement, mais beaucoup ne croient pas en leur chance. 8 sur 10 estiment par exemple qu'un jeune compétent risque d'être écarté par un jeune qui bénéficie d'un piston. C'est ce que pense Ahmet, 24 ans, au chômage depuis l'obtention de son diplôme d'architecte il y a un an.
Sur mes 60 camarades de promo, seulement une vingtaine a trouvé un travail. Et une bonne moitié de ceux-là travaillent dans l'entreprise familiale ou dans l'entreprise d'un ami ou d'une connaissance de la famille. Je compte sur les doigts d'une seule main ceux qui ont trouvé un boulot après avoir déposé leur CV. Personnellement, je pense n'avoir quasiment aucune chance d'être embauché malgré mon diplôme. J'ai beaucoup hésité, mais sans travail, je n'ai pas le choix, je dois partir.
Ahmet a décidé de s'expatrier en Allemagne, où vivent son oncle et ses cousins, dès que cela sera possible.
Pour l'instant, j'économise en travaillant comme livreur à moto. Je répare aussi des petites choses à droite à gauche pour les revendre sur Internet. Si je compare mes revenus d'aujourd'hui avec ce que je pourrais gagner en faisant mon métier à l'étranger, la différence est énorme. En Allemagne, le salaire minimum est de 1500 euros environ. Ici, il ne dépasse pas 300 euros et le pouvoir d'achat a fondu ces dernières années. Je suis citoyen turc. Je préférerais largement rester dans mon pays et être utile à son économie. Mais il n'y a rien ici qui puisse retenir les jeunes comme moi. Ceux qui peuvent partir, partent.
D'après le sondage, pourtant, les difficultés économiques n'expliquent pas à elles seules le découragement des jeunes turcs. Ils sont aussi nombreux à s'inquiéter du recul des libertés, notamment de la liberté d'expression. Ertan Aksoy, qui a dirigé l'étude, affirme que c'est même là leur motivation principale. Pour preuve, lorsqu'on demande aux sondés s'ils préféraient vivre en Arabie Saoudite pour 10 000 dollars par mois ou en Suisse pour deux fois moins, 72% choisiraient la Suisse, y compris 60% des électeurs du parti au pouvoir.
Le mode de vie de l'Arabie Saoudite est celui que l'islam politique au pouvoir en Turquie promet à la société, alors que la Suisse, elle, incarne les promesses de la démocratie sociale, c'est-à-dire des revenus supérieurs à la moyenne et répartis assez justement, mais aussi le respect des libertés et des droits fondamentaux. Bref, notre jeunesse préfère la liberté à l'argent.
À l'heure où le président Recep Tayyip Erdogan promet de contrôler, voire d'interdire les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube, terrain privilégié d'expression des jeunes turcs, l'étude révèle que ces derniers placent la liberté devant tout le reste quand il s'agit de décrire leurs priorités dans la vie. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce désir transcende en effet les préférences politiques. Ainsi, 47% des jeunes qui votent pour le parti au pouvoir, le parti de la justice et du développement, l'AKP du président Erdogan, disent qu'ils voudraient s'expatrier. Mais c'est parmi les électeurs du principal parti d'opposition, le CHP social-démocrate, que les rêves d'ailleurs sont les plus forts. Près de 75% d'entre eux indiquent vouloir partir. C'est le cas d'Arzu et de son amie Dilek, deux étudiantes en droit attirées par l'Europe. Elles dénoncent une atmosphère étouffante dans leur pays.
L'Union européenne n'est pas un modèle, mais il est clair que les esprits en Europe sont plus ouverts, que les libertés sont mieux respectées, que les voix dissidentes ont plus d'espace pour s'exprimer.
Le gouvernement actuel ne cesse d'opérer des retours en arrière. Il ne cesse de critiquer tout ce qui est occidental, de s'éloigner de l'Occident pour se rapprocher d'un modèle moyen-oriental. Je ne dis pas ça pour dénigrer le Moyen-Orient. Il y a sans doute des choses dont on pourrait s'inspirer. Mais en matière de liberté et de respect des droits fondamentaux, c'est quand même autre chose.
Si pour la plupart de ces jeunes, un départ à l'étranger reste un rêve inatteignable. En l'absence de revenus stables, beaucoup auraient déjà du mal à obtenir un visa de touriste pour l'espace Schengen. Il n'empêche que le nombre d'expatriés turcs augmente. Il a grimpé de 43% entre 2017 et 2018 et de 28% entre 2018 et 2019. Près de la moitié d'entre eux avaient moins de 34 ans.
Por amarrarse a tu cuello y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo, está del agua que bebe cuando te mojas los labios. Que soy tu miracle, tu miracle abajo.
Les jeunes espagnols sont confrontés à une situation universitaire ou professionnelle très difficile depuis la pandémie de coronavirus. Stages inachevés, études compromises ou emplois perdus. Comme en 2008, au lendemain de la crise économique, les portes du marché du travail se ferment et certains doivent émigrer pour espérer trouver d'autres opportunités ailleurs. C'est un reportage de Diane Cambon.
La crise financière de 2008, Pablo en a évidemment entendu parler. Il a même étudié au cours de ses études d'économie. Mais jamais ce Madrilène de 22 ans ne pensait vivre à son tour une crise de cette envergure. Une crise avec destruction de l'emploi et baisse radicale des salaires. Au moment même où lui, il obtient son diplôme de fin d'études.
Cela a été un coup d'arrêt brutal. Tous mes plans d'avenir ont été changés. On est face à l'incertitude, moi, mes amis. On ne sait pas ce que l'on va faire à la rentrée.
Pablo était en stage dans la grande banque espagnole, Bankia, lorsque le confinement a été déclaré à la mi-mars.
Cela a gâché tous mes plans. Je venais de passer 6 mois à la banque, cela se passait très bien. Ils étaient contents de mon travail et j'allais être prolongé pour 6 mois de plus. C'était une occasion en or pour quelqu'un qui vient juste de finir ses études. Et là, eh bien, je me retrouve sans rien, plus aucun travail.
La presse espagnole n'a pas tardé à désigner cette jeunesse fauchée en plein essor comme la génération Covid. Les données économiques montrent en effet que plus de la moitié des emplois détruits par le coronavirus concernent les moins de 35 ans. Pour Pedro Berrocho, professeur d'éthique et sociologue, il est urgent que la société espagnole et le gouvernement mettent tous les moyens possibles pour sauver cette génération.
Les jeunes sont conscients que la situation professionnelle est beaucoup plus complexe aujourd'hui, que nombre d'entre eux vont devoir émigrer, et je crois qu'il est fondamental de trouver un moyen de retenir tous ces jeunes très formés, que la société ne les perde pas.
Antonio, âgé de 31 ans, ne doute pas un instant. Après une licence de droit et des dizaines de petits boulots dans la restauration, il a décidé d'aller s'exiler en Écosse. Dans l'appartement familial de Madrid, entouré de ses deux chats, il a pour référence l'expérience de sa mère, qui enchaîne les petits jobs pour parvenir à peine à 1000 euros par mois.
Moi, aujourd'hui en Espagne, avec la pandémie, je ne me vois pas vivre ici. Je vois comment ma mère et ma grand-mère, originaires de Malaga, doivent avoir deux travails pour amener un petit salaire acceptable. Non, l'Espagne, c'est bien, c'est très beau pour les vacances, pour quelques mois. Mais si tu n'as pas un bon boulot et que tu travailles comme serveur, par exemple, c'est très dur d'arriver à la fin du mois. Tu vas bosser 100 heures par semaine pour gagner 700, 800 euros mensuels.
L'impossibilité de prédire quelle sera la situation économique dans les mois prochains est ce qui préoccupe le plus cette jeunesse, qui ne peut pas se projeter dans un avenir proche, comme le souligne le jeune économiste Pablo.
Pour ma génération, cela va être très difficile de trouver un travail aujourd'hui, car les entreprises sont en train de réduire leur personnel à cause des problèmes financiers dus à cette crise, et les derniers à être embauchés vont être les jeunes, j'en suis sûr.
Dans ces conditions, difficile de prendre son envol, comme le souligne le professeur Pedro Berrocho, qui ne manque pas de rappeler que les jeunes Espagnols sont les Européens à quitter le plus tard le foyer familial, bien au-delà des 30 ans.
Il était très difficile d'accéder à un logement et de s'émanciper en 2008 après la crise. Aujourd'hui, avec un salaire encore plus bas, c'est encore plus compliqué. Heureusement, le gouvernement a introduit le revenu universel. Et même si pour moi il est trop bas, c'est déjà une petite aide pour se débrouiller.
À partir de 23 ans, les jeunes sans revenus peuvent demander à bénéficier de ces 462 euros mensuels. Mais pour Antonio, cela ne peut être qu'un coup de pouce et il n'a pas l'intention de solliciter ce revenu universel.
Moi, j'aspire à trouver un travail qui me plaît et qui me remplit chaque jour. Quand j'aurai trouvé ce job, je me dirai « c'est ok, c'est ça que je vais faire ».
Cette espérance, la majorité des jeunes Espagnols ne la partagent pas. Selon l'Observatoire de la jeunesse espagnole, 65% des 25-34 ans pensent qu'ils devront se contenter d'un travail alimentaire.
Après l'élection de l'écologiste Michel Rubirola au fauteuil de maire de Marseille, les élections municipales françaises se soldent donc par une forte poussée des Verts et de la gauche socialiste dans les grandes villes françaises. À Marseille, Lyon, Strasbourg ou Bordeaux, 4 des 10 premières villes du pays, les nouveaux maires sont issus d'EELV, Europe Écologie Les Verts. On en parle avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Pendant la campagne, tous ces maires ont été soutenus par le Parti Socialiste, voire l'ensemble de la gauche.
Au total, gauche et écologiste dirigent 8 des 10 plus grandes villes de France. La droite ne conserve que Toulouse et Nice, et perd Bordeaux et Marseille.
Daniel, est-ce qu'on retrouve cette prédominance de la gauche dans les grandes villes chez nos voisins ?
Cette prédominance est d'abord spectaculaire au Royaume-Uni. Alors que le pays est dirigé par les conservateurs depuis 10 ans, le parti travailliste dirige les conseils de 8 des 10 premières villes du Royaume, notamment Londres, Birmingham, Manchester et Liverpool. Et les villes qui échappent aux travaillistes, Glasgow et Édimbourg, ne sont pas pour autant aux mains de la droite, car les deux grandes cités d'Écosse ont à leur tête des élus du SNP, le Parti National Écossais, qui a toujours revendiqué sa sensibilité social-démocrate. Bref, outre-Manche, le parti au pouvoir est écarté de la gestion des grandes municipalités.
Est-ce que c'est la même chose en Allemagne pour la CDU d'Angela Merkel ?
Pas loin, car la CDU ne gère que la 10e ville du pays, Essen, la capitale de la Ruhr. Elle participe également au gouvernement de Cologne, la 3e ville d'Allemagne, mais sous la responsabilité d'Henriette Recker, qui se revendique indépendante. Et la CDU doit en outre s'entendre avec les Verts dans le cadre d'une coalition vert-noir, comme on dit outre-Rhin. Et puis, la branche bavaroise de la CDU, la CSU, participe à une coalition avec les sociaux-démocrates du SPD à Munich, sous la direction du maire SPD Dieter Reiter. Enfin, à Francfort, sous la houlette du maire SPD Peter Feldmann, la CDU est engagée dans une coalition dite kényane, par référence au drapeau noir-rouge-vert du Kenya, avec les sociaux-démocrates et les Verts. 5 autres municipalités allemandes sont encore dirigées par le SPD, seules comme à Leipzig ou Dortmund, ou en coalition avec les Verts comme à Berlin et Hambourg. Et puis à l'inverse, les Verts conduisent une telle coalition à Stuttgart. Bref, 8 des 10 premières villes d'Allemagne, comme en France, ont un maire de gauche ou écolo.
Et si on prend l'Italie, qu'est-ce qui se passe ?
La gauche y domine également, mais moins nettement. Le parti démocrate de centre-gauche conduit 5 municipalités, celles de Milan, Palerme, Bologne, Florence et Bari. On peut y ajouter encore la ville de Naples, dont le maire Luigi De Magistris se réclame du parti qu'il a lui-même créé, l'Italie des valeurs, et qui se classe au centre-gauche. Quant à la capitale, Rome, on sait qu'elle est conduite depuis 2016 par Virginia Raggi, membre du mouvement anti-système 5 étoiles, toujours membre de l'actuelle coalition gouvernementale. En somme, le centre-droit ne peut revendiquer que 3 des 10 premières villes italiennes, Gênes, Catane et Venise.
Prenons maintenant, Daniel, le cas espagnol. Est-ce que là aussi la gauche domine ?
Là, on ne peut l'affirmer, car le parti socialiste au pouvoir ne dirige que 3 villes sur 10, Séville, Palma de Mallorca et Las Palmas aux Canaries. Mais on range parmi les 10 verts gauches le maire de Valence, tandis que la maire de Barcelone, Ada Colau, fait partie d'une gauche de la gauche de tendance très écolo. La 10e ville du pays, Bilbao, dirigée par les nationalistes basques, peut se classer au centre. En somme, la droite conservatrice du Parti populaire ne dirige que 4 villes, la capitale Madrid, Saragosse, Malaga et Murcie. Donc, en Espagne, gauche et droite s'équilibrent.
Mais au total, Daniel, la tendance est nette.
Très nette, puisque sur les 50 villes examinées dans les 5 grands pays, 30 sont conduites par la gauche, plus 5 qui le sont désormais par les écologistes grâce à leur succès en France. En gros, les partis de droite ne totalisent qu'une 10aine de maires sur 50. La domination de la gauche est tout aussi marquée si l'on considère maintenant les 10 plus grandes métropoles d'Europe, puisque 7 d'entre elles sont à gauche. Et il faut encore y ajouter plusieurs capitales comme Bruxelles, Copenhague, Amsterdam et Lisbonne.
Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ?
Il est clair que les électeurs des grandes villes se classent désormais en grande majorité au centre-gauche et surtout qu'ils expriment de plus en plus leur sensibilité écologique.
Merci Daniel Vigneron, à bientôt.
À bientôt Juliette.
Accent d'Europe à la réalisation, Pauline Leduc. Vous nous retrouvez sur notre site internet rfi.fr et vous pouvez également vous abonner au podcast de l'émission sur votre plateforme de distribution préférée. À bientôt.